Le travail crée d'abord de la valeur économique, donc soit par une logique d'échange marchand, soit par une logique de don. C'est-à-dire que même quand on fait partie d'une association, on travaille et on crée de la valeur économique. Il crée du lien, il permet de construire le psychisme de chacun. Et puis il est surtout l'un des piliers fondamentaux qui permet à l'homme de se développer, le deuxième étant l'amour. Alors comme l'amour, dans le travail, en fait, on s'engage, mais on n'est jamais vraiment reconnu à la hauteur de son engagement. Sauf moi, je dis ça parce que mon mari est dans la salle, donc je suis obligée de le dire. Mais donc c'est vraiment le travail un élément fondamental pour le développement de l'homme. Et donc il faut vraiment s'intéresser à cette question et essayer de comprendre vraiment ce que c'est. Alors pourquoi l'engagement dans le travail est-il si difficile en fait ? Alors moi, je me suis, comme Benjamin le disait, je fais partie d'un groupe de réflexion qui s'appelle Athémis, que j'ai découvert donc lorsque j'ai fait mes études à l'IAE de Paris. Et j'ai découvert un ergonome qui s'appelait François Hubot et qui expliquait très bien les choses de son point de vue et qui m'a donné beaucoup de réponses par rapport au travail et à toutes les questions que je me posais en entreprise. Alors, la théorie des ergonomes, c'est de faire d'abord une distinction entre le travail prescrit et le travail réel. Ça, c'est vraiment la première chose à comprendre. C'est-à-dire que pour les ergonomes, le travail prescrit représente à peu près 20% de la tâche effectuée. Ce qu'on appelle par le travail prescrit, c'est d'abord ce qui est prescrit par soi-même, ce qui est prescrit par l'entreprise et ce qui est également prescrit par le client. Donc, c'est tout en gros, ça correspond à la tâche qui est défini quand on arrive dans une entreprise, et le travail réel qui correspondrait à peu près à 80% de la tâche effectuée, c'est en fait ce qu'on attend de faire en fonction des ressources matérielles, c'est-à-dire des budgets qu'on a, de toutes les dispositions matérielles, l'informatique, etc. Mais surtout, tous les moyens immatériels. Que sont ces moyens immatériels ? Ce sont par exemple la connaissance, la confiance, la pertinence, ce que je vais essayer d'être ce soir. Voilà. Donc ces trois dimensions font en fait partie de ce qu'on appelle la subjectivité. Et finalement, quand on pose cette question, le travail implique-t-il l'engagement ? Ça revient à se dire, qu'est-ce que j'engage comme subjectivité dans le travail ? Quelle forme de subjectivité je dois engager dans le travail ? Et est-ce que j'ai envie de l'engager ? Qu'est-ce qui ferait que j'aurais envie de l'engager, de les engager, et qu'est-ce qui fait que je n'ai pas envie de le faire? Et c'est vraiment ce que je vais vraiment essayer de vous expliquer ce soir, c'est de partir de toutes les formes de subjectivité qui existent et qui sont présentes dans le travail, qu'on investit dans le travail, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne les investit pas, quelles sont les raisons qui font qu'on va les investir ou pas. Alors, je vais vous en décrire quatre. Donc la première forme de subjectivité, c'est ce qu'on appelle les formes de conscience. C'est-à-dire, a-t-on conscience réellement de ce qui se joue dans le travail ? Est-ce qu'on peut avoir conscience de ce que c'est que le travail ? D'après les ergonomes, ce qui est compliqué, c'est que d'abord, les autres ne sont pas nous-mêmes. C'est-à-dire que on assiste dans le travail à une forme d'hétérogénéité, c'est-à-dire que le travail n'est pas homogène, on n'est pas tous homogènes, on est tous différents, les autres ne sont pas nous-mêmes. On va prendre un exemple, par exemple, on prend l'exemple de l'ascension du Mont Blanc. On a deux équipes qui vont grimper le Mont Blanc, les deux équipes vont arriver au sommet, mais on ne sait pas comment. Enfin, en tout cas, ils ne vont pas arriver au sommet de la même façon. S'il y en a une des équipes qui passe par la route des aiguilles grises, elle ne va pas vivre la même chose que celle qui passe par l'arrêt des bottes, forcément, puisqu'ils ont connu des choses différentes, ils vont mobiliser des choses différentes, et pourtant les deux arrivent au sommet, mais on ne sait pas comment. Donc déjà, ce qui montre que c'est difficile déjà d'avoir vraiment conscience de ce qui se joue par rapport au fait que le travail est déjà hétérogène au départ, alors qu'on peut croire quand on est un manager, on va donner des instructions à ses salariés, en pensant que ses salariés, parfois, pourraient agir comme lui imagine qu'on devrait agir. Mais en fait, les salariés ne sont pas lui-même. Donc voilà, c'est déjà une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que le travail, en fait, n'est pas, on n'est pas complètement autonome dans le travail. Enfin, on n'est même pas tellement autonome. Alors, je vous donne un exemple concret, mais qui vraiment existe. Hein. C'est un exemple de Bruno, qui est responsable de la maintenance d'une usine, dans une usine de biscuiterie qui s'appelle Poult. Vous avez peut-être entendu parler, parce qu'on en a beaucoup entendu parler, sinon une entreprise qui a fait énormément de résultats et qui a complètement changé son style managérial. Et Bruno, quand il était responsable de maintenance, un jour, il va voir son patron et il lui dit qu'il y a une pièce défectueuse dans la machine et qu'il faut la changer. Et son chef lui dit, bah, écoute, oui, changeons-la, puisque si on ne la change pas, la machine risque de s'enrayer, c'est dangereux pour la machine. Mais d'abord, il faut que j'en parle au directeur de l'usine. Et le directeur de l'usine lui dit, non, on ne va pas la changer parce qu'on a un client à livrer dans une semaine, c'est impossible, on ne peut pas. En plus, la machine peut très bien marcher sans cette pièce. Donc continuons à faire marcher la machine en ces conditions. Donc on voit bien ici que, en fait, Bruno, il est pris dans ce qu'on appelle des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'on lui dit deux choses différentes, et c'est à lui d'arbitrer, c'est à lui de décider par lui-même, tout seul. En fait, c'est pas comme s'il était autonome, parce qu'il peut pas. Sa décision, elle va forcément avoir des implications sur sa vie dans l'entreprise. Il va forcément devoir mécontenter l'une des deux parties. Donc c'est vraiment cet exemple. Montre qu'on assiste en fait à une fausse autonomie dans le travail et on est plutôt en fait dans une situation d'hétéronomie qui fait que c'est difficile de s'engager réellement parce qu'on peut avoir tendance à justement avoir envie de se protéger parce qu'on a bien conscience que si on s'engage trop, ça peut dérégler les choses pour nous. La deuxième forme de subjectivité, c'est la forme de pensée. C'est-à-dire que, de même qu'il est difficile de conscientiser, d'avoir conscience du travail, il est difficile de le penser. Pourquoi ? Parce que, d'abord, l'expérience précède la pensée. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir l'expérience du travail pour pouvoir le penser. Or, quand on travaille, on est très souvent dans des situations où on n'a pas eu l'occasion de la penser avant d'agir. Ou alors, on peut avoir des espèces de fantasme. Par exemple, Simon qui dit « je vais gravir le Mont Blanc », en fait, dans le fond, il sait que ce qui le motive profondément, c'est que socialement, l'effet Mont Blanc est indéniable. Donc quand il va lundi être à la cafette avec Chloé et qu'elle va lui demander « qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?», il va lui dire « j'ai gravi le Mont Blanc », il sait que ça a un effet extraordinaire pour Chloé. Et donc, parce qu'il y a un côté prestigieux, etc. Donc on voit bien là qu'il n'en a pas encore l'expérience, il ne sait pas ce qu'il va vivre, il ne sait pas que du coup, que c'est ça qui le motive, mais avant, il va falloir qu'il le vive et ça va être difficile. Mais voilà. Et d'autre part, l'autre exemple qui fait qu'on peut plus s'engager parce qu'on a pu penser le travail, parce qu'on l'a expérimenté, c'est toujours le cas de cette entreprise Poult, qui après son plan social de 2006, a invité ses salariés sur la base du volontariat à plus d'efficacité, en leur demandant, bon écoutez, voilà, on vit un plan social, c'est très dur, etc. Donc qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on change dans l'entreprise ? D'après vous, qu'est-ce qui ne va pas dans l'entreprise ? Et ils lui ont dit, en fait, ce qui ne va pas, c'est qu'il y a trop de hiérarchie, donc nous, on veut moins de hiérarchie, on veut plus de liberté. Et contre toute attente, ce Carlos Verkeren, ce patron, a dit, très bien, parfait. Cassons les lignes hiérarchiques, on va enlever des lignes hiérarchiques et vous allez vous organiser par vous-même. Donc on va raccourcir les circuits de décision et puis on va supprimer deux niveaux hiérarchiques. Donc maintenant vous allez vous organiser par vous-même. Et c'est là que ce Bruno, qui est vraiment un cas réel, est devenu finalement animateur de site et, parce qu'il est devenu autonome et à partir de cette expérience, il a pu reconstruire vraiment... penser le travail autrement et faire en sorte que le travail soit mieux vécu par les salariés. La deuxième chose, la première chose, c'est que l'expérience précède la pensée, d'accord, dans les formes de pensée. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans une pénurie de concepts clés. Alors pourquoi c'est important ? Parce que déjà, s'il n'y a pas de concept, il n'y a pas de cadre. Et puis, s'il n'y a pas de concept, il y a une prolifération de concepts contre-productifs. Par exemple, à un moment donné, j'étais dans une entreprise et quand je suis arrivée, on m'a dit il y a deux principes clés dans une entreprise. C'est le principe de la patate chaude et le principe du marketing interne. C'est-à-dire que dès qu'on a un dossier brûlant entre les doigts, on le passe au voisin. Ou alors, on fait son marketing interne, c'est-à-dire qu'on fait sa communication interne, on fait tout pour se faire valoir, etc. Et ça, ce n'est pas vraiment productif parce que du coup, on ne se met pas forcément en danger, on n'a pas forcément envie de s'engager. Et dès qu'on est en difficulté, on va passer le problème au voisin. En revanche, un exemple positif, c'est le fait de, par exemple, nommer ses salariés des techniciens de progrès. C'est-à-dire, au lieu de dire technicien, on dit technicien de progrès. Donc, tous les jours, quand on va travailler, on est un technicien de progrès. Donc, on a envie de faire progresser l'entreprise. Et ça, c'est porteur. En fait, les concepts, ça paraît, c'est que des mots, mais c'est très important parce que le fait de nommer les choses fait qu'on arrive mieux à penser et que du coup, on arrive mieux à s'engager aussi dans le travail parce qu'on le nomme avec des mots forts qui font que le travail est plus facile à vivre et il est plus facile de s'engager dans ce cas-là dans le travail. Alors, la troisième forme de subjectivité, c'est ce qu'on appelle la forme émotionnelle du travail, dont on parle peu, mais qui est très importante. Et la question, c'est est-ce que je dois m'engager émotionnellement dans mon travail ? Qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas ? Alors, un exemple, c'est l'exemple d'un directeur général d'une agence de publicité, Monsieur Pérez, qui convoque tous les trimestres son équipe commerciale pour avoir le compte-rendu des résultats commerciaux que chacun a effectué, sachant que la règle, c'est de faire 20% de croissance par an. Donc tous les commerciaux sont autour de la table. Et à un moment donné, Frédéric intervient, donne ses résultats, mais il n'a pas fait 20% de croissance. Et donc, Monsieur Pérez lui coupe la parole et passe au suivant. Voilà. Alors là, il ne s'est pas engagé, il n'a pas essayé de comprendre vraiment ce qui s'était passé, etc. Du coup, pour ce salarié, c'est difficile parce qu'il n'est pas, il est pas reconnu pour ce qu'il a vécu. Et donc, ça va être difficile pour lui de s'engager. En revanche, si je me laisse toucher, si je me laisse affecter, donc comme toujours Carlos Verkaren, je prends ce même exemple pour voir un petit peu la continuité. Lui a été très affecté par ce plan social. Et parce qu'il a été affecté, parce qu'il a été ébranlé, il s'est dit, en fait, il faut mettre l'homme au cœur du système. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui va passer. C'est pour ça que l'entreprise ne marche pas. Donc, il a fait preuve d'humilité. Il est allé voir ailleurs. Il a regardé un petit peu ce qui marchait dans les autres entreprises. En termes d'innovation, il s'est rendu compte que l'innovation, elle marchait si on donnait plus de liberté aux salariés, si on faisait en sorte que tous les salariés soient acteurs de l'innovation. Et si on construisait un écosystème qui fait levier sur les capacités d'innovation. Et ça lui a permis de rebondir parce qu'il a été affecté au départ, qu'il a fait preuve d'humilité et que ce qui compte pour lui, ce n'est pas l'ego du patron, ce n'est pas le fait d'être moi, je suis patron, je suis le chef, voilà, tout le monde m'obéit, tout le monde me rend des comptes. Moi, je me mets à la hauteur de mes salariés, je considère que mon entreprise, elle marche aussi parce que mes salariés sont là. Et donc, je les écoute, je les prends en compte. Et je vais aussi voir dans les autres entreprises qui marchent pour reconstruire un petit peu un modèle qui va permettre aux salariés de mieux s'engager, de mieux s'impliquer dans leur travail. Donc tout dépend en fait comment on est affecté dans le travail et il y a effectivement différents degrés d'affectation. Il ne faut pas être trop affecté non plus, comme ce Frédéric qui du coup a été tellement affecté qu'il n'a plus pu donner autant un salarié qui le serait mais qui resterait quand même dans la possibilité d'agir. Voilà, donc il y a des degrés dans les formes émotionnelles, mais la forme émotionnelle fait partie d'une des formes de subjectivité très importante parce que si on se laisse toucher, on peut du coup mieux s'engager dans le travail. Et enfin, la dernière forme de subjectivité, c'est ce qu'on appelle les formes psychiques du travail. Alors, en fait, étrangement, un élément pour les ergonomes et pour beaucoup de sociologues aussi, et d'économistes aussi, un élément qui est constitutif du travail, c'est en fait l'échec. C'est-à-dire que le travail est avant tout l'expérience de ce qui résiste, donc... L'échec est absolument capital dans le travail parce que si on est dans une si on En fait, on a tous échoué un jour dans notre vie, ou on va tous échouer. Enfin, en tout cas, c'est le propre de la vie d'échouer. Le problème, c'est qu'on n'accepte pas cet échec. C'est-à-dire que l'entreprise, souvent, ne nous autorise pas ou ne laisse pas la place à l'échec. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? En fait, il y a plusieurs destinées psychiques à la souffrance que provoque l'échec au travail, parce que ça provoque forcément une souffrance. Parce qu'on est obligé de se remettre en question, etc. Alors, s'il y a échec, mais la reconnaissance du travail est réelle, c'est-à-dire qu'on dit, d'accord, tu as échoué, tu n'as pas atteint tes résultats, tu n'as pas fait 20% de croissance. En revanche, ce que j'ai vu, c'est que quand tu es allé chez le client, tu as donné le maximum de toi-même, tu t'es investi. Et ça, c'est vraiment positif, on va pouvoir rebondir là-dessus. En revanche, pour les 20% de croissance, peut-être que tu peux te faire aider, peut-être qu'il y a d'autres façons de faire les choses, tu peux peut-être présenter les choses différemment, etc. Et là, on arrive à rebondir sur l'échec parce qu'il y a quand même une reconnaissance toujours de ce fameux travail réel qui est le côté immatériel du travail, l'investissement personnel qu'on met dans le travail qui est la partie la plus importante. En revanche, s'il y a échec, mais s'il n'y a pas de reconnaissance du travail réel, à ce moment-là, il y a trois types de systèmes de défense qui vont se mettre en place. Il y a d'abord un système de défense collective qui est le moins néfaste, mais qui n'est pas forcément le plus productif. Alors par exemple, c'est la secrétaire qu'on va critiquer parce qu'on dit, elle ne fait pas son travail, c'est pas bien, etc. Mais on va jamais lui dire pourquoi. Par contre, on va la critiquer entre midi et deux, on va se retrouver, on va parler d'elle, etc. Ce qui se passe beaucoup dans les entreprises, qui fait perdre énormément de temps, c'est les déjeuners entre midi et deux, quand les salariés se retrouvent entre eux et parlent du mauvais patron, de la mauvaise secrétaire, etc. Et ça s'amplifie, parce que plus on en parle, plus on a envie d'en parler, finalement, c'est complètement contre-productif. Ça n'amène à rien et c'est pas productif. De même, c'est le cas des profs contre parfois certains élèves et des élèves contre certains professeurs qui passent leur temps à dire ce prof est pas bon, etc. Mais il va jamais avoir de dialogue, il va jamais y avoir de discussion, de discussion positive sur la façon d'améliorer un cours, sur pourquoi est-ce qu'on trouve que le cours est pas bon. Et ce serait bien que des élèves ou des professeurs disent parfois peut-être essayer de faire les choses autrement pour améliorer et repartir d'un échec pour en faire quelque chose de productif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle cette première défense, c'est une défense collective, c'est-à-dire qu'on est plusieurs rassemblés autour d'un même échec et on se défend collectivement. Donc c'est quand même plus facile parce qu'on est plusieurs. En revanche, il peut y avoir une position qu'on appelle non défensive, qui est souvent une position de certains salariés qui se sentent en échec, mais qui culpabilisent et qui vont pas en parler et qui du coup vont s'en prendre à eux-mêmes et qui créent, qui en fait exposent leur santé individuelle. Donc on parle beaucoup en ergonomie, c'est une notion extrêmement importante, la santé, parce que là, en fait, la santé est un élément moteur du travail. On mobilise beaucoup de sa santé. Il faut être en forme. Quand on est commercial, il faut être en forme. Il faut savoir bien s'exprimer. Ça fait partie de la santé. C'est très important, la santé. C'est un pilier majeur du travail. Et quand on est dans un système de position non défensive, c'est-à-dire qu'on s'accable soi-même et qu'on... Là, du coup, on n'est plus dans un système de défense collective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en parler parce qu'on sait... C'est pas possible, c'est trop difficile. Et du coup, ça va détériorer la santé des individus. Et c'est là qu'on va tomber dans ce dont on entend beaucoup trop parler, les TMS, les burn-out, les suicides au travail, etc., qui sont vraiment ces cas de figure-là de personnes souvent extrêmement compétentes, mais qui ne savent pas se défendre et qui, du coup, souffrent trop du travail. Puis il y a une troisième position qui est une position défensive. Donc là, c'est l'engagement minimum. C'est toujours le coup de la patate chaude et du marketing interne. C'est, je ne m'engage pas trop, comme ça je ne souffre pas trop. Je fais le minimum. Et là, on est dans les 60% des personnes du début, c'est-à-dire des personnes qui s'engagent le moins possible et qui du coup ne sont pas très productifs parce qu'ils ne donnent pas d'eux-mêmes. Et voilà. Donc voilà, en fait, on voit à travers ces différentes formes de subjectivité que l'engagement du travail est différent parce qu'on ne peut pas s'impliquer de la même façon en fonction de ces différentes formes de subjectivité. Et c'est ce qui fait que c'est aussi irrégulier et aussi difficile de juste dire il faut s'impliquer dans le travail. Ce n'est pas du tout aussi simple que ça et ça nécessite de comprendre avant tout quelle forme de subjectivité engage le travail. Pour conclure, je ne sais pas du tout combien de temps il me reste, mais bon. En conclusion, on parle beaucoup du sens du travail, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir plus de sens dans ce qu'on fait, c'est indéniable. On a besoin de comprendre pourquoi on travaille aussi pour s'engager. Mais en fait, on a encore plus besoin de la reconnaissance, on a encore plus besoin d'être reconnu, ce qu'on appelle la reconnaissance de l'engagement. De savoir pourquoi on fait les choses et d'être reconnu, parce que c'est à partir du moment où on a cette reconnaissance que l'on trouve du sens, justement. Alors, il y a deux issues pour retrouver le sens et la reconnaissance et donc l'engagement. Enfin, il y en a sûrement plus, mais moi j'en ai trouvé deux. Enfin, pas moi, mais les ergonomes, les sociologues, etc. C'est d'une part de prendre en compte la centralité du travail, c'est-à-dire que le travail est vraiment une dimension essentielle de la vie. C'est très absolument constructif et si on la place au centre de notre vie, ça devient on en fait quelque chose dans lequel on a vraiment envie de s'engager et il faut vraiment prendre d'abord conscience de ça, mais surtout en considérant l'homme comme étant central dans ce travail, c'est-à-dire en construisant à partir de l'homme, donc de la vie, et avant tout le travail, la clé du travail, c'est d'abord de le rendre vivant, c'est-à-dire de se dire mais le travail c'est quelque chose de vivant. Moi ça m'affecte énormément de voir que des personnes sont malheureuses dans le travail. C'est déjà le travail c'est la vie et c'est avant tout vivant, c'est-à-dire ça doit vivre, ça doit être dynamisant pour l'homme et pour l'entreprise. Et l'une des clés que je trouve très positive, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle que de développement durable, énormément de développement durable. Et c'est une clé magique pour le travail et pour l'homme. Parce que à partir de cette notion de développement durable, on replace l'homme au centre de la vie. Et on prend conscience qu'en fait, la vie est essentielle, et la vie est essentielle pour soi, mais la personne qui est à côté de moi est aussi vivante que moi. Donc en fait, on est une grande famille sur la Terre, et donc on a envie de défendre la Terre parce qu'on est vivant et on veut que la vie se régénère, et il faut prendre soin de la Terre, etc. Et je ne sais pas si vous connaissez ce concept de Pachamama qu'utilisent beaucoup les Boliviens, enfin, cette déesse de la Pachamama qui est la déesse de la Terre, la déesse Terre, qui dit que justement ils prennent tellement soin de la Terre qu'ils lui donnent à manger, etc. Enfin, il y a tout un rituel à travers ce qu'on appelle la boca, donc ils créent une bouche dans la Terre et ils nourrissent la Terre avec plein de petites choses précieuses, etc. Tellement ils ont besoin de prendre soin de cette Terre. Et je trouve que c'est un petit peu naïf, etc. Mais en même temps, c'est vrai, la Terre, c'est notre Terre, c'est notre maison à tous. Et l'écologie, le développement durable, permet de redonner du sens et de redonner de la valeur au travail. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.